journaliste Ndikoma Nyanga.
François Kimana sur la mise en onde. Merci de rester branché sur nos zones. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord la charpente. La cour d'appel d'Ngozi décide ce lundi le maintien en détention de Sandra Moussa, la journaliste de la Nova, comme requis par le parquet général près cette cour d'appel lors de l'audience publique du 19 novembre 2025. Maître Rémi Nsabimana, un des avocats de la défense, dit être très déçu par cette décision. Le chef de l'État se réjouit des prestations de la presse burundaise de ces jours-ci, contrairement au passé. C'était ce vendredi à Gitega dans des cérémonies de prestation de l'administrateur de la commune Gitega à la population. Mais ces professionnels de la presse burundaise regrettent la retention de l'information par certaines autorités publiques. Le reportage du jour nous amène sur la colline Yeranda de la commune Kirundo où les citoyens se plaignent pour cause du manque d'eau potable. Certains se rabattent même sur les eaux de rivière. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous parlera des conditions exigées à tout club voulant évoluer au championnat de football du Burundi baptisé Primus League en première division. Bienvenue.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Ouvrons cette actualité par la page justice. La cour d'appel de Ngozi a décidé ce lundi le maintien en détention de Sandra Moussa, la journaliste de la Nova, comme requis par le parquet général après cette cour d'appel lors de l'audience publique du 19 novembre 2025. Maître Rémi Nsabimana, un des avocats de la défense, dit être très déçu par cette décision, malgré les efforts fournis en démontrant les nombreuses irrégularités constatées dans ce dossier sur son arrestation et sa détention. Les avocats de la défense de cette journaliste Sandra Moussa envisagent pour le moment d'entrer dans le fond du dossier au tribunal de grande instance d'Ngozi. Sandra Moussa est poursuivie pour atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion ethnique. Elle a été arrêtée le 18 avril 2024 à Ngozi, puis conduite à la prison centrale de Mimba Bujumbura. La cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente pour juger Sandra Moussa après plus d'une année d'incarcération. On l'a par après ramenée à Ngozi pour y être juge. Le chef de l'État se réjouit des prestations de la presse burundaise de ces jours-ci, contrairement au passé. C'était ce vendredi à Gitega, dans des cérémonies de prestation de l'administrateur de la commune Gitega à la population, de la présentation plutôt de l'administrateur de la commune Gitega à la population. Même si les journalistes sont enchantés par cette observation du chef de l'État, il regrette le fait qu'il y a encore pas mal de sources d'informations qui refusent de les fournir et leur demande de changer ce comportement. Les détails avec Gérard Nvikiza.
Selon le chef de l'État Évariste Ndayishimiye, pendant la période antérieure, il y avait des journalistes qui, lorsqu'ils étaient en train d'écouter les discours des responsables et chefs, agissaient comme des pharisiens qui ne faisaient que piéger Jésus. Ils ne faisaient qu'enregistrer les discours et mettaient l'attention sur les erreurs commises sur lesquelles ils se basaient pour les inculper. Il souligne néanmoins qu'actuellement, un journaliste écoute et enregistre bien et diffuse fidèlement l'information qui parvient à l'auditeur. Il insiste aussi sur le fait que maintenant les journalistes visitent un cultivateur modèle et un éleveur de lapins modèle qui prospèrent pour ça et font en sorte qu'ils servent d'exemple pour les autres citoyens. Il précise que la presse burundaise actuelle n'agit plus comme des mercenaires, mais plutôt elle diffuse l'information bénéfique à la population et il conclut que c'est une révolution de la presse burundaise qui avait tardé à venir. Cela étant, certains journalistes de Gitega se réjouissent de cette observation du petits chefs de l'État et demandent à leurs confrères et consoeurs d'aller toujours de l'avant.
Et nous avons accueilli cette impression du chef de l'État avec grande satisfaction. Pourquoi ? Parce que cela témoigne que le chef de l'État reconnaisse le rôle crucial que jouent les professionnels des médias pour informer le public. Ça va nous entraîner à redoubler d'efforts pour pouvoir informer la population avec transparence, rigueur et patriotisme.
Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. J'invite alors mes collègues journalistes à continuer dans le même genre, à respecter l'éthique et la déontologie professionnelle et à respecter les textes légaux et réglementaires en vigueur au Burundi.
Toutefois, lors d'un entretien du ministre en charge de la communication et des médias, Gabi Bougaga, et les journalistes présents à Gitega, ces derniers ont regretté le fait que certaines sources d'information refusent de le leur fournir et c'est ainsi qu'ils prônent pour le changement de ce comportement.
Et je dirais à ces sources d'information, que ce soit publiques ou privées, de considérer les journalistes comme des partenaires et non comme des adversaires. Parce que les journalistes sont là pour rapprocher les dirigés et les dirigeants.
Vous saurez que le chef de l'État a apprécié positivement les prestations des journalistes de ces jours-ci. Vendredi passé à Gitega lors des cérémonies de présentation à la population de l'administrateur de la commune Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani.
Merci à Gérard Nibigira pour tous ces détails. Les journalistes doivent contribuer à prévenir les violences basées sur le genre à travers leur travail quotidien. C'est ce qu'affirmait l'un d'eux comme Hatungimana, spécialiste de l'utilisation des plateformes numériques. Alors que se déroule la campagne des 16 jours d'activisme contre ces violences, en particulier celles qui se propage via ces plateformes. Il estime que l'action principale consiste à sensibiliser les gens afin d'arrêter la diffusion de ce type d'informations dans le but de prévenir ces violences. Suivez le journaliste Kwame Atungiman.
Notre rôle, votre rôle est prépondérant pour lutter contre ces violences. C'est dans la mesure où le journaliste doit en tout prix savoir ces violences-là. Parce que avant d'entreprendre une activité contre ces violences, il faut que l'on ait une idée en rapport avec ces violences. Si le journaliste a cette notion, il faut qu'il travaille dans la mesure où il doit sensibiliser tout l'entourage afin qu'il puisse connaître ce que c'est cette violence basée sur le genre. Nous devons construire un mur de protection afin que les journalistes prennent le devant pour qu'ils puissent sensibiliser la population, afin que la population puisse avoir une idée sur ces violences. Une fois avoir cette notion, il faut qu'on puisse continuer à entreprendre d'autres activités. Lutter contre la propagation de cette information fait que cette information ne puisse pas se propager. En tant que journaliste, on doit œuvrer à ce que les gens connaissent ce genre de messages, ce genre de violences qui se font sur les réseaux sociaux et avoir une idée sur comment lutter contre ces messages. Entre autres, lutter contre la propagation de ces messages.
L'actualité continue sur Isanganiro, célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida au 1er décembre. Selon l'Institut Pasteur, centre de recherche scientifique français de renommée mondiale, le VIH-Sida a été isolé à l'exercice 1983-1984, mais circulait déjà en Afrique dès 1959. La première alerte sur le sida date de 1981 aux États-Unis et la journée mondiale de lutte contre le sida a été lancée en 1988. Au Burundi, le premier cas a été diagnostiqué en 1983 et en 2023, 81 250 personnes vivaient avec le VIH. Malgré les défis, le pays progressait vers les objectifs 95-95. Les détails avec Ornella Mucho.
Le virus de l'immunodéficience humaine VIH a été isolé en 1983 et 1984 par des équipes de l'Institut Pasteur en France et aux États-Unis, un centre de recherche scientifique français de renommée mondiale. Cette découverte a permis de développer des tests de dépistage et de mieux comprendre la maladie. Pendant des études rétrospectives, on révélé que le virus circulait déjà bien avant cette date. Des cas d'infection ont été identifiés en Afrique. Dès 1959, certaines recherches suggèrent que le VIH pourrait être présent chez l'humain depuis la fin du 19e siècle. Depuis 1988, le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida, première journée internationale dédiée à la santé. C'est un moment de sensibilisation, de prévention, de solidarité et de mémoire pour les millions de vies perdues à cause de la maladie. Chaque année, un thème est mis en avant en 2025. Le slogan est « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida et au Burundi ». Le premier cas de sida a été diagnostiqué en 1983. 34 ans plus tard, en 2017, des progrès notables ont été enregistrés. Toute personne testée séropositive était immédiatement mise sous traitement. Le dépistage volontaire est de plus en plus accepté, contrairement aux années 1980 et 1990, où il était redouté. En 2023, on estimait à 81 250 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Burundi et 40 millions dans le monde en 2024 au Burundi. Cette journée en 2025 est célébrée dans la commune Mwanda, province de Bujumbura, avec comme objectif de mettre en lumière les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH au Burundi, sensibiliser la population à l'importance du dépistage volontaire et de la prise en charge immédiate des personnes séropositives et renforcer le rôle des médias comme partenaire clé dans la lutte contre le sida. Lors de la réunion préparatoire de cette journée le 26 novembre, le directeur du programme de lutte contre le VIH a rassuré que malgré les baisses des aides, les besoins essentiels restent couverts grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne qui se lance dans des activités de recherche ou d'exploitation industrielle des minerais sans autorisation est punie d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs burundais, conformément à l'article 235 du Code minier du 4 août 2023. Aujourd'hui, nous revenons sur des dispositions qui évoquent la procédure et la répression des infractions liées aux activités minières. C'est au moment où le chef de l'État a récemment lancé officiellement l'exploitation des différents minerais. Les détails avec Stéphane Deschimi.
Conformément à l'article 233 de ce code, sans préjudice des dispositions du code pénal, est puni d'une servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs burundais, quiconque cache sciemment les découvertes de nouvelles substances minérales d'un intérêt économique dans son périmètre de recherche ou d'exploitation ou en minimise la teneur réelle. Cet article prévoit également que, s'il est constaté par des enquêtes que les substances nouvellement découvertes ont été frauduleusement commercialisées par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation, ce dernier est tenu de payer un manque à gagner à l'État équivalent à la valeur de ces substances sans préjudice d'un dédommagement moral. Quiconque se livre à des activités de recherche ou d'exploitation industrielle des minerais sans autorisation ou permis valide, comme stipulé dans l'article 235 du même code, est puni d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs burundais. Conformément à l'article 234, quiconque se livre à des activités de fouilles, de sondages ou de prospection des minerais sans autorisation ou permis valide est puni d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs burundais. L'article 239 du même code prévoit que toute personne physique ou morale qui se livre à des activités d'exploitation des minerais sans autorisation est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 1 année et d'une amende d'un million à 10 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Comme le précise l'article 236, toute personne qui se livre à des activités d'exploitation des carrières industrielles sans permis valide est puni d'une amende de 20 millions à 30 millions de francs burundais. Et quiconque se livre à des activités d'exploitation artisanale des carrières sans permis valide est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 1 année et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 238 du même code.
À la source, reportage.
Les citoyens de la colline Yeranda de la commune Kirundo se plaignent pour cause du manque d'eau potable. Certains se rabattent même sur les eaux de rivière. Ils disent qu'ils s'approvisionnent en sous-produits à une distance estimée à 7 km. Ce qui déplore également l'administration communale indiquant que la commune a prévu cette année dans le budget 20 millions de francs burundais pour faire face à cette problématique dans la mesure du possible. Les détails dans ce reportage dans l'Indésiré Bukeneza qui s'est rendu sur les lieux.
Nous sommes sur la sous-colline Kigozi, colline Yaranda de la zone Kavomo, en commune Kirundo, province Butanyerera. Des citoyens ne se rappellent pas la période qu'ils ont puisé de l'eau des robinets.
On nous a donné de l'eau des robinets, on a mis des tanks sur la colline, mais on ne l'a profité que 2 mois seulement. Il y a plusieurs tanks sur les collines, mais on n'a pas vu de l'eau. Avec ces tanks, tout semble fonctionner normalement, mais avoir accès à l'eau reste impossible.
Ces citoyens indiquent que des gens capables s'approvisionnent en eau potable par vélo à une distance estimée à 7 km.
Pour que je boive de l'eau potable, je dois chercher un vélo chez mon voisin pour aller chercher de l'eau et cela prend environ 2 heures pour amener de l'eau potable.
Dans ce contexte, certains font recours à l'eau des ruisseaux et des femmes déplorent qu'il reste difficile de prendre en charge de petits enfants.
Quand on n'a pas puisé de l'eau potable, on puise dans les ruisseaux et des enfants boivent souvent cette eau. Mais cela n'est pas bon pour les enfants.
Dans certaines situations, des gens font recours à l'eau du lac Chohora.
Dans le passé, on nous disait qu'il ne faut jamais s'inquiéter de l'eau des lacs. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Nous constatons des maladies, mais des fois, on se demande si cela serait lié à l'eau du lac Chohora. Des signes prouvent quelquefois que l'eau de ce lac cause certaines maladies.
Le chef de la colline Yaranda, Samuel Ndihokubwayo, regrette que l'eau de robinet installée il y a à peu près 10 ans n'ait pas duré. L'administrateur de la commune Kirundo, Jean-Bert Kimas Ndikugayo, indique que sur 140 collines de sa circonscription, 84 collines souffrent énormément en manque d'eau potable. Et la commune a prévu cette année, dans son budget, 20 millions pour répondre à cette problématique dans la mesure du possible.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Tout club évoluant au championnat de football au Burundi, baptisé Primus League en première division, doit obligatoirement avoir un président disposant d'un bureau où il exerce ses fonctions. Etienne Manirakiza, responsable de licence des clubs au sein de la Fédération burundaise de football FFB, précise également que d'autres conditions doivent être remplies pour qu'un club soit autorisé à participer aux compétitions officielles. Les détails, c'est dans cette chronique sport avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane.
Les exigences pour qu'un club soit autorisé à participer au championnat de la première division de football Primus League ont été établies par la Confédération africaine de football CAF afin que le football africain soit pratiqué de façon professionnelle. Ce sont les explications fournies par Etienne Manirakiza, responsable des licences des clubs au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Parmi ces exigences, la première est que le club doit disposer d'un emblème permettant de l'identifier. Le responsable de la vérification des critères de participation dans au championnat Primus League, ajoute qu'un club doit obligatoirement avoir un nom et un lieu d'implantation.
Une licence, c'est un certificat octroyé à un club pour que ce club puisse participer au championnat national ou bien à la compétition intercontinentale ou internationale. On a 5 critères que le club doit répondre. Premièrement, on a le critère qui concerne les informations générales du club. Et ces informations générales du club sont les suivantes. Le club, d'abord, doit avoir un logo de haute qualité. Et autre chose, le club doit avoir une adresse comme lié et aussi adresse électronique. Un club doit avoir un email.
Le club doit également avoir un président ou un dirigeant identifié, possédant un numéro de téléphone portable et une adresse électronique, comme le précise encore Etienne Manirakiza.
Aussi, le club doit avoir un président. Ce président doit posséder une adresse électronique. Aussi, le président doit avoir un contact, numéro de téléphone.
Le club est aussi tenu de posséder une équipe de jeunes qui lui est affiliée conformément au règlement de la CAF.
Dans les critères sportifs, ou bien les exigences sportives, je peux dire ainsi, le club doit avoir intérêt qui va aider le club d'habiliter ou bien de jouer les compétitions internationales. Aussi, dans les critères sportifs, le club doit avoir une équipe de jeunes ou bien les clubs de jeunes à partir des moins de 15 jusqu'au moins de 21 ans. On voit quand même les moins de 10 ans. Ici, je peux dire les enfants de 8 ans, 9 ans, ainsi de suite.
Le responsable du département chargé d'octroyer les licences des clubs au sein de la FFB explique que les clubs engagés en Primus League doivent avoir affilié leurs joueurs aux sociétés d'assurance. À cela s'ajoute l'obligation de soumettre les joueurs à des examens médicaux avant le début du championnat.
Et parmi les critères sportifs, il y a ce qu'on appelle suivi médical des joueurs. Les joueurs doivent bénéficier des soins médicaux. Ici aussi, les joueurs dans tel club doivent être assurés pour dire que le club doit avoir une assurance médicale qui couvre ses joueurs. Le club doit soumettre une lettre de la compagnie d'assurance confirmant que tous les joueurs de la première équipe masculine sont couverts par une assurance médicale.
Dans la prochaine chronique sportive, Etienne Manirakiza expliquera également les exigences relatives aux infrastructures des clubs ainsi que l'organisation de leur direction administrative, conditions nécessaires pour qu'un club soit autorisé à participer au championnat national de football baptisé Primus League.
Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes.